Dans Starfoot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Starfoot, Starfoot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star.
Bonsoir et bienvenue dans Starfoot. Au programme de ce soir, la mini-crise à l'OM après le nul un partout face à Metz. On parlera de la rumeur sur la mise en place du carton bleu. On se demandera si l'OM a manqué de respect à Klos. On jouera aussi au JPP, le jeu des phrases pourries. Et enfin, on reviendra sur l'actu foot de la semaine.
Starfoot, Starfoot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star.
On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Starfoot. Avec moi ce soir, une team un peu amoindrie. Notre éléphant blanc, Jean-Marc, a commenté la cagne hier soir. Je crois qu'à l'heure qu'il est, il roupille encore. Mais on a quand même une team de qualité. Il a une mémoire d'éléphant en ce qui concerne l'OM. Ça fait 40 ans, j'allais dire 60 ans, non. 40 ans qu'il est supporter, c'est Pascal Cobé. Salut Pascal.
Salut à tous, un peu plus de 40 ans, mais c'est bien, pour rajeunir, s'il te plaît.
Mais oui, c'est bien. Il fait d'une mouche un éléphant quand il parle des bons résultats de l'OM, c'est Amar. Comment ça va, Amar ?
Ça va très bien. Et vous, vous allez bien ?
Ah ouais, nickel, écoute. Ah,
ça va alors.
Et puis on a deux promus ce soir, deux éléphantos qui sont Guillaume et Idriss, qui sont nos stagiaires. Coucou les garçons.
Salut, ravi d'être là avec vous aujourd'hui.
Alors vous êtes deux pour remplacer Jean-Marc, hein ?
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc vendredi, en ouverture de la 21e journée, l'OM devait se ressaisir face à Metz, mais apparemment on n'arrive même pas à faire mieux qu'un nul face à une équipe qui restait sur 7 défaites d'affilée. Ça devient très très inquiétant, Amar.
Ouais, très très inquiétant. Je suis très inquiet par rapport aux résultats et par rapport à ce que nous propose Monsieur Gattuso. Ça devient de plus en plus pathétique. C'est pourtant des actions, on en a, mais de la qualité, il en manque. Et ça commence à faire long de ne pas gagner comme ça, et surtout au Stade Vélodrome. Pourtant, on est invaincu, mais on n'a pas gagné.
On n'a pas gagné.
Donc, ça m'énerve.
Pascal ?
Oui, bon, je ne suis même pas surpris. C'est ça le pire, hein, quoi, je veux dire. Là, ça devient... De toute façon, l'avantage, c'est qu'on peut revenir sur les podcasts des émissions précédentes. Hein. Moi, je sentais le coup venir, c'est peut-être 40, 5 ans de supporterisme. Quand tu es dans une dynamique comme ça, mauvaise, et puis Gattuso, il s'entête avec son 4-3-3, hein. Enfin, je veux dire, il y a tout qui ne va pas. Quoi. C'est longue galère.
Mais même Gattuso, hein, il a répondu en conférence de presse qu'on traversait vraiment une mini-crise. Tu es de cet avis, toi, Guillaume ?
Ouais, complètement. Mais le problème, c'est surtout qu'on s'habitue à rester dans le ventre mou. Là, on est clairement sur une dynamique d'équipe de ventre mou. Et il est bien sympa, Gattuso, à chaque fois en conférence de presse, il dit on doit changer ci, on doit changer ça. Mais le week-end d'après, sur les matchs suivants, on le voit pas. Je me demande si à l'entraînement, réellement, il travaille tout ce qu'il voit. Parce que pour analyser les matchs, il est super. Mais pour entraîner et trouver des solutions, est-ce qu'il est vraiment la bonne personne ? Je suis pas sûr.
Idriss, ton avis ?
Bah ouais, on est dans une crise. Et Gattuso, on a l'impression qu'il fait rien pour sortir cette crise. Il reste dans son 4-3-3 et il tente rien pour bouleverser le match. Et voilà, alors qu'on a la qualité de l'effectif, elle est là, et juste il est mal exploité.
Si on continue sur cette lancée, j'ai envie de dire adieu l'Europe, Amar.
Je sais pas. Je pense qu'en Europe, il y aura un autre comportement, j'ai l'impression. Mais après, bon, je pensais qu'il y allait avoir un autre comportement contre Metz. Il n'a pas eu lieu, donc je peux que me tromper. Donc c'est possible.
Je pense qu'Emilie, elle disait adieu l'Europe.
Oui, adieu l'Europe. Voilà,
pour la qualification.
Il n'y a rien
de fini. On joue mal. On est quand même à 5 points du 3e. Il n'y a rien de fini. Il y a des choses qui peuvent changer.
On est à 7 points du 3e, non, il a 8 points du 3e, 9 points du 2e et 7 points du 4e.
Ouais, peut-être que j'ai regardé le classement juste avant les journées d'hier. Bon, c'est pas grave, on n'est pas très loin du 3e au niveau comptable. Et comme ça va très vite quand tu gagnes les matchs, on le sait, on l'a vu la dernière fois quand on a commencé à enchaîner 3 victoires, ça peut aller très vite. Bon, après, bon, en fait, j'ai envie d'y croire, quoi. J'ai vraiment envie d'y croire. Voilà, c'est ça le souci.
C'est plutôt ça.
C'est surtout ce qui se passe. C'est surtout un problème de savoir-faire. J'ai cette impression. C'est pas un problème que tu joues mal ou pas mal, mais je pense que c'est Gattuso le vrai problème.
Ouais, je pense aussi. Les joueurs, on les a. Le système, il est pas bon. On les met pas dans les bonnes conditions. Je veux dire, Aubameyang, là, c'était bien aujourd'hui. Hier, en tout cas, vendredi, il était sur le côté gauche. C'était plus intéressant. Mais N'Jai, toujours pareil. On l'a recruté pour jouer en 9,5. Il joue toujours sur son côté. Il s'enferme sur son côté.
Ah ouais, c'est dommage.
C'est pas comme ça qu'il a explosé aux yeux de tout le monde dans le Championship, justement. Il était sur un côté. Et une fois qu'il est passé derrière l'attaquant, il l'a pu exploser. Et il a montré toutes ses qualités. Aujourd'hui, à l'OM, il est mal utilisé. Et il s'enfonce au fur et à mesure.
On le disait avec Jean-Marc, ça, justement. Jean-Marc l'avait souligné qu'il était meilleur derrière l'attaquant en soutien, quoi. En inter, comme on appelait à l'époque. Il était plus intéressant que sur le côté.
Moi, les gars, je veux pas être pessimiste, mais je pense que il est mignon, hein, il a laissé une belle histoire et tout avec ses ongles, à Saint-Charles, mais il est pas au niveau, et puis je veux bien être optimiste, mais il reste 13 journées de championnat, et dans les 13 journées, on va à Brest, on va à Rennes, on reçoit le PSG, on va à Lille, on reçoit Nice, et on reçoit Lens. Donc, il y a 6 matchs. Voilà, c'est ou tout bon ou tout mauvais, hein. Déjà, à mon avis, de toute façon, le match charnière pour moi de la saison, ça a été Monaco, quoi. Le raté de Vitinha, si on gagnait Monaco, on avait peut-être de chances d'aller choper l'Europe, mais là, j'y crois plus du tout, moi.
En tout cas, Marseille n'a gagné aucun de ses 4 premiers matchs en Ligue 1 en 2024. Ça ne lui était pas arrivé depuis 2001 avec Anigo. On va faire une petite pause dans le prochain quart d'heure. On va continuer à parler de ce nul face à Metz. On se demandera si l'OM a manqué de respect envers Jonathan Clauss. Et puis, on parlera du carton bleu. On se retrouve après Ariana Grande sur Radio Star.
Starfoot jusqu'à 20h. Sur Radio Star.
On est de retour dans Starfoot sur Radio Star avec Amar, Pascal Cobé, Guillaume et Idriss. On est ensemble jusqu'à 20h et on va continuer le débriefing de ce nul un partout face à Metz. C'était vendredi soir. Alors, le match est un peu loin. Du coup, je voulais m'attarder sur le fait que pour une fois, les supporters sont restés assez tranquilles finalement dans le stade. Hein, le stade toujours plein, 62 000 personnes. Des banderoles pour Longoria et les joueurs. Mais jusqu'à quand ils vont-ils rester tranquilles, Amar?
Je sais pas. Ils sont surtout qu'ils sont surprenants, nos supporters à nous. Ils sont un peu spéciaux, donc je sais pas. Je comprends. De toute façon, tu sais la réunion qu'il y a eu avec les supporters pour essayer de calmer tout ça. Moi, j'ai toujours été contre ça. J'ai toujours été. Chacun s'occupe de son job, quoi. Les joueurs du terrain, l'entraîneur entraîne, le président préside, et les supporters supportent. J'ai jamais voulu mélanger ces trucs-là. Et des fois, je me dis, ils font des réunions, mais c'est du pipeau, c'est du cinéma, pour faire croire que les supporters, ils participent à ça. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent des supporters? Parce qu'ils font que tout changer, donc toujours. Donc c'est même pas la peine. Les formateurs sont là pour former les joueurs. Les joueurs sont là pour construire une équipe, et l'équipe est là pour construire un club. Donc si on fait pas ce format-là, si on fait tout à l'envers, on n'y arrivera pas. Et c'est justement ce qu'on fait. On fait tout à l'envers.
Après, Amar, c'est un peu difficile aussi de supporter l'insupportable, j'ai envie de dire, hein, parce que là, ça devient insupportable ce qu'on voit. Moi, de mon époque, c'était un peu plus chaud quand même. Je trouve très patient, très gentil, je trouve cool les supporters.
Non, mais la meilleure des réponses, c'est de plus aller au stade. C'est ça, les supporters qu'ils doivent faire, bien sûr. Mais après, bon, tu sais, quand tu aimes ton club, même quand ça va mal, c'est justement quand ça va mal qu'on doit être là, quoi. Qu'on doit supporter l'équipe, mais on a le droit aussi de leur rentrer dedans.
Et je pense surtout que là, les supporters sont tout simplement désabusés. Ils en ont marre, ils n'en peuvent plus de voir toujours les mêmes saisons se répéter, les mêmes espoirs venir et à chaque fois tomber du jour au lendemain. Tout simplement, ils en ont marre de voir qu'il n'y a aucun projet sportif, aucune cohérence d'une saison à une autre. Et arrivé un moment, bon, gueuler, c'est bien, mais au bout d'un moment, quand on gueule toutes les saisons, ça perd un petit peu de son énergie. Et là, ils en ont marre, ils sont clairement désabusés, j'ai l'impression.
N'y aurait-il pas un problème de frustration aussi?
Peut-être.
Bon, PSG.
Après, là où il a raison, c'est Guillaume, hein, où tu as raison, Guillaume, c'est que les jeunes supporters, après, tu fais les matchs, par exemple, la saison dernière, quand on rentre, on fait les matchs amicaux, Igor Tudor, le premier match, on fait des matchs amicaux pourris, se fait kiffer. Ça, on peut pas en vouloir aussi aux jeunes supporters qui ont rien vécu, quoi. Ça fait des années et des années qu'il se passe rien, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas de titre. Les mecs, ils sont désabusés, et au moins d'autres trucs, ils craquent, quoi. Donc, tu as entièrement raison.
Alors malgré tout ça, quand même, Gattuso, il est dans le viseur des supporters avec 21 points en 15 matchs. Il possède la plus mauvaise stat pour un entraîneur marseillais depuis 2014. Est-ce que vous pensez qu'il est en danger, Pascal?
Je pense que Gattuso, comme le disait encore Guillaume tout à l'heure, il est très sympathique en conférence de presse, il raconte des belles histoires, il est sympa, mais je crois qu'il est comme beaucoup d'entraîneurs, il s'empête dans ses schémas de jeu, il est un peu borné et puis bon, moi, il faut se rappeler de ce qu'il a fait à Naples, ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, il a jamais fait ça, c'est pas un top, c'est pas Bielsa, c'est pas Sampaoli, c'est pas Tudor, voilà, on l'a pris, il est venu un peu en pompier de service, je suis pas persuadé, c'est pas un grand, pour moi, c'est pas un grand entraîneur. Après, je demande qu'il me fasse, que je me trompe, pour moi, vous voyez, mais je n'y crois pas, quoi.
À la limite, Gattuso, quand il est arrivé, ouais, c'est vrai qu'il a toujours été dans des équipes qui ont joué le ventre mou, comme on est en train de le faire actuellement. Mais Tudor, avant qu'il arrive à l'OM, il n'avait pas non plus de grosses références avec de grosses équipes. Il était avec le Las Véron, qui était une équipe sympathique, mais du milieu de tableau de Serie A. Mais au moins, il est arrivé avec une philosophie, une vraie idée de jeu, quelque chose de vraiment compatible avec l'Olympique de Marseille, ou du moins avec différents joueurs. Là, Gattuso, il arrive clairement avec juste l'étiquette de grand milieu de terrain, grand joueur, référence à son époque au Milan AC. mais rien de plus. En tant qu'entraîneur, il a aucune référence, aucune idée, aucune philosophie. Et c'est là où c'est justement très compliqué à ce niveau-là.
Ben, t'as sorti un truc intéressant. Tu parles justement, c'est un côté culturel parce que Tudor justement, ils viennent de la Juve, là où, d'où là viennent Deschamps, et il y a un côté travail de groupe. Donc ça ressemble vraiment à Tudor et à la Juventus de Turin. Tandis que Gattuso, il vient du Milan AC, où justement c'est un club où il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de ventre mou et de haut du tableau. C'était un peu, il a un peu vécu tout ça, Gattuso, en tant que joueur.
Idriss, est-ce que tu le vois rester pour conclure Gattuso?
Malheureusement, je crois qu'on est obligé de garder jusqu'à la fin parce que rechanger d'entraîneur, ça ferait un quatrième entraîneur dans la saison. Après, ça veut dire qu'on va continuer avec l'année prochaine peut-être. C'est mieux de continuer avec lui et cet été, on prend un autre et on part sur un nouveau cycle.
Toi, tu es pour la pérennité à Marseille, ce qui nous manque.
Ouais, c'est ça.
Merci messieurs, restez avec nous sur Radio Star. Après la pub, on va parler de Klaus du carton bleu. On jouera au JPP, le jeu des phrases pourries. A tout de suite sur Radio Star.
Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star.
On est de retour dans Star Foot sur Radio Star sans Jean-Marc Ferreri, mais on l'embrasse avec Pascal Cobé, Amar, Guillaume et Idriss. On va se demander si l'OM n'a pas manqué de respect à Klaus. Alors je m'explique, des tensions sont apparues récemment entre la direction et Jonathan Klaus, dont le cas divise énormément au club. L'ancien latéral droit du RC Lens a été brutalement poussé vers la sortie par ses dirigeants. Afin d'apaiser les tensions, Valentin Rongier a même défendu l'international. Trouvez-vous que le comportement de Klaus a changé et qu'il a une mauvaise attitude, Amar?
Non, je ne pense pas qu'il ait une mauvaise attitude. Je pense que le club s'est un petit peu manqué. Je pense qu'ils ont trop voulu faire de politique avec lui. Effectivement, il a eu un passage, on va dire, à vide. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il fait et tout ce qu'il apporte à chaque fois qu'il rentre. Et tout l'apport offensif qu'il a dans cette équipe, faut pas oublier aussi l'an début de saison de l'année dernière, il mettait beaucoup de buts. Faut pas oublier, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur un international, c'est un joueur qu'il faut s'appuyer dessus. J'ai l'impression que l'Olympique de Marseille a envie de le faire partir pour récupérer un billet pour acheter autre chose. Mais c'est bon quoi, Klaus, c'est un joueur qui a le profil pour rester assez longtemps avec nous. Faut le garder, faut essayer de le soigner. Et je suis content que Rongier l'a défendu.
Pascal?
Non, mais Longoria, il nous prend vraiment pour des jambons. Moi, là, il ne faut pas trop me chauffer là-dessus parce que je monte en régime. Klaus, bien sûr qu'il a manqué de respect. Je veux dire, c'est l'international, c'est le seul qu'on a avec Veretout qui n'est pas toujours, international. Et on lui tape dessus. Pourquoi? Parce que soi-disant, je ne sais pas quoi, il joue trop à la PlayStation, c'est des conneries. Ça. Pour moi, c'est de la communication parce que Longoria, il s'est manqué. Et je commence à sentir que ça sent le roussi. Et voilà, il va trouver une excuse, il lui tape dessus. En tout cas, c'est très très mal géré l'histoire. On voulait l'enterrer, mais on n'aurait pas fait mieux. Non, pour moi, c'est catastrophique. La gestion de ce cas-là, c'est honteux. Il n'y a pas de mots. De toute façon, tout va mal. Hein.
Guillaume?
Ouais, c'est complètement ça. Je reviens sur le mot que t'as dit. Tu as parlé de communication. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est même de la politique à ce niveau-là. Il y a toujours un aspect un peu rusé chez Longoria que je trouve dans sa gestion des coachs et des entraîneurs qui est vraiment un peu malsaine à la longueur. Et pour ce qui est de Klaus, je me demande comment il va réussir à avoir confiance à sa direction finalement. Parce qu'on a l'impression qu'il triche pas sur le terrain. C'est souvent lui qui apporte le plus d'envie, le plus d'entrain, le plus de verticalité. C'est l'un des seuls qui, dans l'animation offensive, va être intéressant justement. Et je sais pas, trouver maintenant une motivation supplémentaire pour faire plaisir à son club. Je trouve ça compliqué maintenant pour Klaus de rebondir après ça.
Il lui a été reproché notamment d'avoir été augmenté et de ne pas s'être investi sur le terrain, alors que c'était quand même un des rares à s'investir sur le terrain, Idriss.
Alors, au début de saison, c'était l'un des seuls qui... Il fait être partie des meilleurs joueurs. Après, il a eu ce petit passage à vide et ça arrive dans le foot. C'est pas parce qu'il est pas bon quelques matchs qu'il faut tout de suite dire qu'il s'investit pas parce que son salaire est augmenté. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment faire pour repartir sur des bonnes lancées.
Ouais, et puis surtout, l'étaler comme ça sur la place publique, ça c'est minable. Après, Claude, il a quel âge, votre ami, je l'appelle Klaus. Il a 31, il est plus jeune, hein, donc il est latéral, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courses. Il coûte cher, voilà, si on peut le faire partir, on prend un petit billet, voilà ce qu'il voit là, Longoria. Ça, c'est uniquement une politique économique, la politique sportive, elle est zéro. Aujourd'hui, à l'OM, faut pas chercher, elle est zéro.
Est-ce que psychologiquement, on peut se remettre et faire comme si de rien n'était jusqu'à la fin de la saison, Amar? Est-ce que tu penses qu'il a pris un petit coup au moral, là, Jonathan?
Il a sûrement pris un petit coup au moral, mais je ne pense pas que ça va l'abattre. Je pense qu'au contraire, ça va le renforcer, parce que ça a l'air d'un garçon avec beaucoup de caractère. Il nous le prouve, hein. C'est un garçon qui a joué à Kevilly, qui a joué à Belfield, c'est ça qu'il a joué, je crois.
Ouais, ça, ouais.
À Belfield, c'est un garçon qui a beaucoup de caractère, qui était à Lens aussi, donc ils ont un public qui est à peu près similaire que le nôtre. Donc je pense pas que ça l'a battu, ça au contraire, ça a dû le renforcer, tant mieux.
Et surtout là où ils le prennent un peu pour des cons aussi à l'élection, c'est que soi-disant ils se préserveraient en envisageant le championnat d'Europe.
Enfin, oui,
ça n'existe pas.
Champs, il faut arrêter. S'il joue pas, il n'a pas une place de titulaire incontestable, Klaus. Donc il faut qu'il prouve tout le temps. Donc ça, c'est vraiment le prendre pour des cons, quoi.
Non, mais ça n'existe pas. Surtout si les internationaux français, ça n'existe pas, ça.
Non, mais en plus, Longoria, là, ça. Son envie de vouloir retourner l'opinion publique pour profiter d'une possible surenchère dans le mercato dans les dernières heures, on l'a très bien compris, on voit très bien dans son jeu.
C'est surtout
ça, en fait, qui cherche à faire au lieu de juste montrer que Klaus n'est pas investi.
Mais au final, est-ce que ce n'est pas juste retarder l'échéance? Autant il va se barrer au mois de juin, en fait, du coup. Est-ce que ça ne le pousse pas un peu vers la sortie?
Peut-être, en tout cas, si.
Maintenant, il envisagerait une prolongation.
Ils sont changeants. Un coup, il te vient, un coup, il te prolonge.
Bon, en fait, voilà, on n'a pas tous les éléments, ça c'est certain, mais c'est sûr que ça ressemble à une manœuvre de Longoria ou de quelqu'un d'autre, pas forcément Longoria. Ça ressemble sûrement
à une manœuvre,
voilà, ouais, de manière générale. À mon avis, ouais, y a quelque chose derrière, mais après, nous, supporters, on aimerait rester dans la pérennité, on en parle souvent, et surtout avec des garçons comme lui, des garçons comme Klaus.
Eh bien, c'était le mot de la fin. On revient tout de suite dans Starfoot. D'ici 3 minutes, on parlera du carton bleu, cette nouvelle règle qui refait surface de temps en temps. On écoute Vanilla Ice sur Radio Star.
Starfoot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star.
Bientôt 19h30, vous êtes dans Starfoot sur Radio Star. On est ensemble jusqu'à 20h avec Amar, Pascal Cobé, Guillaume et Idriss, hein, qui ne sont pas trop de deux pour remplacer Jean-Marc Ferreri qui se repose après la finale de la CAN. J'avais envie de parler du carton bleu. Donc c'est l'IFAB, l'International Football Association Board, gardien des règles du jeu, qui songerait à instaurer ce troisième carton après le jaune et le rouge mis en place donc en 1970. Ce serait au tour de la couleur bleue d'être utilisée. Le principe est simple: si un joueur se voit infliger un carton bleu par l'arbitre, il est exclu pour 10 minutes. Dites-moi si pour vous c'est une bonne chose et donnez-moi vos arguments, Pascal.
Alors là, franchement, oui, ils veulent faire un peu comme au rugby, quoi.
C'est ça.
J'imagine que c'est ça. Un
peu tout à fait. Rugby.
Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Non, je pense que non. Là, il y a les. Non, franchement, je. Pourquoi pas? Franchement, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis sur la question. Honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid, c'est sur le carton bleu. Personnellement. Hein.
Bon, sincèrement, de mettre un carton intermédiaire, ça fait des années qu'ils en parlent. On le fait déjà dans des catégories comme l'UFOLEP, tout ça. On met un carton blanc déjà. Le joueur est sur 10 minutes. C'est ridicule. Je dis sincèrement, c'est ridicule. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. À force de toucher à toutes les règles, on veut ressembler à d'autres à chaque fois. On veut ressembler au rugby, on veut ressembler au handball, on veut ressembler. Bientôt, on veut ressembler au tennis, quoi, avec les cartons. Non, c'est bon, c'est franchement tout ça, c'est gonflant. Les règles, elles sont bien définies. On a un arbitre avec maintenant des caméras, donc ça s'appelle plus un arbitre. Donc ces décisions, elles sont plus arbitraires. On cherche une justice et on l'a prouvé en plus contre Metz avec l'OM que l'arbitre, franchement, s'il est pas bon, c'est pas la peine qu'il reste. Parce que ce match-là, encore une fois, on nous refuse un but sur une faute qui n'existe pas. Un carton rouge, on peut en discuter. Ouais, allez. Admettons, il mérite un carton rouge, mais on pourrait quand même en discuter. S'il y a la VAR, on peut en discuter, parce que c'est quand sur le coup, je voyais justement, excuse-moi, je suis sur autre chose.
Vas-y.
Sur le coup, je voyais justement la faute, j'ai dit bon, il mérite un rouge. Et après le rouge, quand je vois la VAR, je dis non, finalement, il mérite pas un rouge. Donc, on n'est pas tous d'accord. Bon, alors, s'ils vont nous mettre maintenant un carton bleu pour nous dire, on va sortir 10 minutes et rentrer, ça m'étonnerait que deux minutes après, il n'ait pas un carton jaune ou un carton rouge.
Alors, deux cartons bleus, ce serait un rouge. Hein.
Ouais, c'est ça.
Là où il a raison, Amar, parce que moi, je pense à la même chose en regardant le match, que la VAR interpelle l'arbitre pour aller voir s'il y a jaune ou rouge, d'accord. Par contre, dans l'autre sens, la VAR interpelle jamais l'arbitre pour un péno possible sur Moumbania, dans la surface. Le but, pourquoi il siffle avant? Il n'y a but, il n'y a rien. C'est le gardien, on est toujours de la dinde, quoi. En gros,
Non, mais moi j'entends tout ce que vous dites, etc. Mais je pense qu'on est aussi un petit peu à côté du débat. Le carton bleu, ça permettra d'être une sorte d'outil de dissuasion, d'améliorer le jeu. Dans une ère où on se plaint tout le temps que les joueurs simulent, qu'on s'arrête à chaque fois, que voilà, ça sera plus un outil de dissuasion. Après, attention, c'est vraiment qu'une petite proposition. La FIFA a temporisé les choses et ils sont clairement pas très 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 chauds à l'idée de rajouter ce carton.
Ouais,
parce
mieux.
Que ça n'aidera pas non plus les clubs qui, à chaque fois on le rappelle, quand il y a des cartons, des suspensions, ils payent des amendes aussi. Donc financièrement, les clubs, ça les arrange pas trop non plus.
Puis est-ce que après, ça va pas aussi
La VAR, c'était aussi censé améliorer le jeu.
Ouais.
C'est
ouais.
Ça améliore peut-être le jeu ou les règles, c'est un peu plus équitable. Sauf quand, pour nous, il y a un super montagnier qui arbitre à la VAR.
Ah oui,
c'est ça le problème.
Si tu donnes la VAR à un arbitre incompétent, il restera incompétent, ça c'est sûr.
Puis la VAR, quand même, ça a haché le jeu. Donc je pense qu'un troisième carton, ça va aussi hacher le jeu, perdre le rythme sur les matchs.
Alors moi je pense que c'est plus fin que ça. Je pense que les arbitres ne sont pas au niveau. Ils veulent garder leur statut de professionnel. Et comme ils ne sont pas au niveau, ils se disent on va être plein d'outils. Comme ça, ils ne peuvent pas dire que c'est nous, quoi. Comme ça, ils diront que c'est la vérité. Donc les arbitres, moi je demande un truc, c'est tout. Mettez-nous des arbitres compétents, s'il vous plaît. Juste, ils nous mettent des arbitres compétents. Il y a des arbitres qui sont en district, qui sont en ligue, qui sont meilleurs que nos arbitres professionnels. Mettez-nous des arbitres compétents et tout ça, on n'en parle plus. Et quand l'arbitre il se trompe, nous on dira, l'arbitre il s'est trompé, c'est pas bien grave. Mais là, du coup, on dit, l'arbitre il nous a volé. Parce que les cartons bleus, crois-moi, ils vont sortir. S'ils existent, ils vont beaucoup sortir. Et on va se retrouver à deux sur le terrain, tu verras.
Est-ce que finalement, ça ouvrirait pas la porte à des excès d'arbitrage, comme tu l'as dit? Ça va voler à tout va, les cartons.
Ah oui, voilà. Non, mais c'est ça, comme la VAR. Ils arrêtaient pas de s'en servir au début, pour rien. Des fois, ils avaient raison, puis des fois, c'était n'importe quoi.
Après, dans les faits...
Carton violet, carton rose...
Ouais, voilà. Mais de toute façon, le carton bleu, dans les faits, il va vraiment pas trop exister, parce qu'on se rend compte que déjà la FIFA temporise, les clubs sont pas d'accord, et surtout, c'est un débat et un sujet qui est sur la table depuis 1995. J'ai retrouvé un article de nos confrères de Libération qui parlait déjà du carton bleu, de l'idée d'ajouter le carton bleu dans le football. Donc ça fait déjà presque une trentaine d'années, quoi.
Idriss, ton avis sur la question?
Je pense que plus on ajoute de technologie, de nouvelles règles pour les arbitres, plus leur niveau il baisse et ils deviennent incompétents. Comme on l'a vu sur le but refusé, ici faute direct alors qu'il y a la VAR, il aurait pu attendre, laisser jouer le jeu et le but aurait été validé. Et là, ils sifflent direct alors qu'ils attendent tout le temps. Et là, juste il est
incompétent. Après, je voulais juste terminer sur cette histoire de la VAR. C'est pas un match de l'OM, mais je ne sais pas si vous avez regardé le derby de la Côte d'Azur, Yvon Lacour. Tant pis, ça prend un carton rouge, je viens en province. Le mec, il tacle sur le ballon, bon, il touche. La VAR, ça accentue aussi les images, ça accentue le regard, quoi. Le foot, c'est quand même un sport de contact à la base aussi, hein. Donc ça devient un sport de danseuse, quoi. Donc c'est un peu n'importe quoi.
Merci les garçons, on revient tout de suite dans Starfoot. On jouera ensemble au JPP, le jeu des phrases pourries prononcées par des joueurs, des entraîneurs, même des journalistes. Et on passera en revue les infos foot de la semaine. On écoute Slimane sur Radio Star.
Starfoot jusqu'à 20h sur Radio Star.
On est de retour sur Radio Star dans Starfoot avec Amar, Pascal Cobé, Guillaume et Idriss. Vous le savez, c'est le moment de jouer au JPP, le jeu des phrases pourries. Je vais vous donner une phrase culte, trois propositions pour vous aider et vous me direz qui est l'auteur. Ce soir, c'est une spéciale proverbe déformé. C'est parti. Il faut qu'on tire tous dans le même bateau. Est-ce Patrice Evra, Johan Gourcuff ou Florent Malouda? Pascal.
Florent Malouda, je vois.
Amar.
Patrice Evra, et t'as dit Gourcuff, c'est
Gourcuff
ça?
Gourcuff ou Malouda?
Je vais dire Gourcuff, tiens.
Guillaume.
Je dirais Patrice Evra.
Et Idriss.
Je dirais Florent Malouda.
Eh bien, c'était Patrice Evra pendant la Coupe du Monde 2010. Bravo, Guillaume. On a tendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Est-ce Gourvenec, Comboiré ou Courbis? Amar.
Ça ressemble à du Comboiré, ça.
Pascal.
Ouais, j'irai Comboiré aussi. Ouais.
Guillaume.
Ouais, Comboiré.
Idriss.
Comboiré aussi.
Et oui, les garçons, vous avez tous trouvé. Ça nous donne du pain à moudre. Est-ce Laurent Blanc, Didier Deschamps ou Frédéric Antonetti? Amar.
Antonetti, avec l'accent, ça doit faire rire.
Pascal.
Ouais, je vois bien Deschamps, moi, sur ce point.
Guillaume.
Ouais, moi aussi, Didier Deschamps qui aime bien remixer un peu les
problèmes. Idriss.
Antonetti.
Eh bien, c'était Laurent Blanc. C'est étonnant, de la part du président. Laurent Blanc, d'habitude, il ne fait pas ce genre de faute pourrie. Autre proverbe. Cette fois, les carottes sont mortes. Est-ce Jean-Guy Wallem, Guillaume Varmuse ou Johan Lachor, pardon. Amar.
Varmuse.
Pascal.
Ouais, t'as dit qui, Varmuse?
Varmuse, Wallem ou Lachor?
Allez, Wallem.
Ouais, Wallem.
Idriss.
Lachor.
Eh ben oui, c'était Lachor. Bon point pour Idriss. Vous l'auriez compris, c'était un Lensois.
Ah, je suis pas bon aujourd'hui.
Eh ouais. Allez, un autre. Ça sert à rien de mettre la charrue avant les pneus. Est-ce Fabrice Béjorgi, oui. Ronald Zoubar ou Nicolas Fauvergue, Amar.
Ah, Fauvergue. Je vois bien.
Pascal.
Jean-Marc Ferrari, je sais pas pourquoi, je le sens dans
le pauvre, il est pas là. Guillaume.
Ouais, Ronald Zoubar.
Idriss.
Zoubar.
Eh bien, c'était Fauvergue en 2014 quand il était à Ajaccio. Une autre, allez, on va relever la pente. Est-ce André Ayew, Abby Bay ou Johnny Ecker, Amar?
Abby Bay, allez.
Pascal.
Johnny Ecker.
Guillaume.
Abby Bay.
Ouais, Abby Bay.
Idriss.
André Ayew.
Eh oui, c'était André Ayew. Putain, c'est Idriss qui prend la tête, j'ai compté aujourd'hui.
Ah, il connaît tous les illettrés, il connaît tous les illettrés.
Allez, une petite dernière. Il faut avancer de l'avant. Est-ce Mathieu Valbuena, Xavier Gravelaine ou Franck Ribéry, Amar?
Ouais, ça pourrait être Franck Ribéry, mais je vais dire Xavier Gravelaine, je vais pas me faire avoir.
Pascal.
Dire petit vélo, moi, Valbuena, je le sens bien là-dessus.
Guillaume.
On l'a toujours pas eu, Franck Ribéry.
Idriss.
Valbuena.
Eh bien, c'était Ribéry. Il en fallait une facile, au moins avec Ribéry, avec toutes les conneries qu'il dit. Eh bien, Guillaume et Idriss sont à égalité, nos dieux stagiaires. Bravo les garçons.
Bravo
Idriss. Bravo Guillaume.
On marque une petite pause et on revient pour le coup de cœur ou de gueule, on ne sait pas, de nos experts. Et la dernière partie, on passera en revue l'actu de la semaine. À tout de suite sur Radio Star.
Tous les lundis à 19h, c'est Starfoot sur Radio Star. Radio Star. Dans Starfoot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Starfoot, Starfoot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star.
Vous êtes toujours sur Radio Star dans Starfoot avec Amar, Pascal Cobé, Guillaume et Idriss. On embrasse Jean-Marc qui doit dormir après sa finale de la CAN. Et justement, la CAN, c'est le coup de cœur de Guillaume qui va nous dire ce qui lui a plu.
Eh ben oui, effectivement, j'aurais dû parler, j'avais prévu de parler du Bayern Leverkusen qui prend de l'avance à la tête de la Bundesliga après avoir gagné 3-0 contre le Bayern ce week-end. Mais j'ai regardé la finale de la CAN et j'ai vu ce but de Sébastien Haller qui m'a inspiré. Et qui a rajouté aussi un peu d'humanité et une belle histoire dans ce foot business. Alors en juillet 2022, il apprend à être atteint d'un cancer des testicules avant de mettre sa carrière en suspens. En janvier 2023, il retrouve les terrains et pas plus d'un an plus tard, il offre la CAN à son pays en inscrivant le but de la victoire hier soir à la 81e minute. En plus d'avoir une histoire tout simplement magnifique, il est le symbole de la rédemption de la Côte d'Ivoire durant cette CAN. Lui qui débute la compétition blessé durant les phases de poule, alors que sa nation parvient à se qualifier in extremis, miraculeusement en terminant parmi les meilleurs troisièmes avec perte et fracas, notamment avec la démission de Jean-Louis Gasset qui sera remplacé par la suite par son adjoint Emers Faye pour la suite de la compétition. Lui qui débute sur le banc en huitième et en quart lorsque ses coéquipiers parviennent à se qualifier au tir au but face au Sénégal et durant les prolongations face au Mali, dans les deux cas après avoir été mené au score. Lui qui débute enfin un match, arrivé à la demi-finale face à la République démocratique du Congo de notre Chancel Mbemba et qui marque le seul but de ce match et qui qualifie son pays et l'envoie vers la finale. Lui qui d'un coup de pied zlatanesque, plein de rage, comme un dernier combat, comme un dernier coup face à la maladie, coupe un ballon au premier poteau pour donner la CAN à sa nation à domicile devant son peuple. Lui qui en fin de match au micro de notre Basilou national fond en larmes dans ses bras. Lui qui nous donne une leçon de résilience et de courage. Pour tout cela, respect Monsieur Haller.
Eh ben, il nous a fait une hamar, hein. C'était beau.
Ouais, c'était beau.
Presque
c'était...
un slam, c'était.
Ouais, c'était très beau.
En plus, il était à l'heure.
Aussi.
c'était très beau. Non, c'est un joueur que moi j'admire parce que c'est un exemple de on va dire de rédemption,
de résilience,
voilà, de persévérance surtout. Parce que vraiment, c'est un garçon qui vient de loin. À ce qui paraît, il voulait arrêter le football. Et là, tout ce qui y arrive et tout, c'est que du bonheur. Et en plus, c'est un joueur magnifique. Franchement, c'est un joueur beau à voir jouer. J'adore ce joueur.
Pascal.
Ouais, c'est un super joueur et puis c'est le karma aussi finalement, hein. Donc il se bat contre maladie terrible et puis là, il revient en grâce dans son pays en offrant la CAN. Il sort magnifique, ça a beaucoup de cœur que Guillaume et je partage complètement son avis. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. On va bien l'avoir chez nous, mais ouais. Évidemment pas. Mais
c'est un peu la même histoire que de notre ancien gardien de but Johan Pelé. Donc Johan Pelé aussi qui avait une grave maladie, qui devait arrêter le football et tout, et ensuite il est revenu, on va dire au plus haut niveau. Donc c'est beau de voir des joueurs qui sont qui sont quelque part condamnés pour certains, qui lâchent rien, voilà. Ils lâchent rien et au final, qui ont de belles histoires. C'est une très belle histoire, en tout cas.
Idriss, voilà. Un mot sur Sébastien Haller.
C'est une très belle histoire. C'était écrit pour la Côte d'Ivoire qui la gagne avec toutes ces péripéties pendant la CAN. C'était écrit, c'était la belle histoire et c'est lui qui a donné ce but et c'est mérité pour lui. Il a persévéré, il a jamais arrêté et c'est mérité pour Sébastien Haller.
Amar, est-ce que tu avais un petit coup de cœur, toi, ou un petit coup de gueule?
Oui, j'avais un petit coup de gueule.
Pour
le football
féminin. Ça fait du bien.
Pour le football féminin. Ah. Voilà. Parce que moi, je suis pour tous les footballs. J'aime le football. Que ça soit même les footballs dérivés. J'aime tous les footballs. Que ça soit le futsal, le beach soccer, tout. Et le football féminin, je l'aime particulièrement, mais j'ai horreur de voir des gens qui comparent le football féminin avec le football masculin. Parce que pour moi, c'est le football au féminin. Mm-hmm. C'est pas le football féminin. Donc, de comparer à chaque fois avec notre football à nous, ça commence à m'énerver. Dernièrement, j'ai entendu un gars dans les réseaux qui comparait, qui disait nous avec une R2, on a battu Montpellier.
Je l'ai vu ce mec-là.
Voilà, ouais, mais j'avais envie de traverser l'écran, lui amener une mètre de gifle, tu vois. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. C'est misogyne. C'est dégueulasse. Et moi, ça m'énerve qu'on compare le football féminin avec tous les autres footballs. On n'a pas à le faire. C'est le football féminin. Ça reste le football féminin. Voilà. Et si t'aimes pas le football féminin parce que t'es misogyne, ben ne regarde pas. Il y a personne qui va t'obliger à regarder. Et moi, j'aime ce sport et j'aime tout particulièrement le football féminin. Voilà.
Les garçons, j'ose même pas vous poser la question. Vous aimez ou pas le foot féminin ?
Bah, c'est vrai que j'ai plutôt du mal sur le football féminin, surtout quand on connaît l'intensité, l'impact du football masculin, etc. Mais après aussi, il faut le remettre dans son contexte, c'est-à-dire que le football féminin, certes, existe depuis un bon moment, mais il s'est surtout développé sur les 20-25 dernières années. Si on compare le football après 20-25 ans d'existence, je suis sûr qu'on regarde des matchs et aussi il n'y a pas le même impact, la même intensité, la même qualité technique. Donc ça ne sert à rien de comparer l'incomparable, surtout à ces niveaux de développement.
Eh bien messieurs, on va faire une petite pause et puis on va revenir dans Starfoot pour parler de l'actu de la semaine. Ce sera la dernière partie. On écoute Laurine sur Radio Star.
Starfoot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star.
Retour dans Starfoot pour la dernière partie avec Amar, Pascal Cobé, Guillaume et Idriss qui sont toujours là. C'est le moment de faire le tour de l'actu foot. On en a parlé tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a remporté la 3e CAN de son histoire. On a vu Didier Drogba dans tous ses états dans les tribunes, il a remis le trophée à la fin. Est-ce que du coup vous avez suivi cette compétition? Est-ce que vous avez regardé cette finale commentée par Jean-Marc Ferreri? Amar.
Alors sincèrement, j'ai commencé à la suivre et j'ai arrêté de la suivre. Parce que l'arbitrage, il était horrible, j'en pouvais plus.
Après, c'est les commentaires de Jean-Marc qui étaient pourris.
Non, sincèrement, c'était l'arbitrage qui était un petit peu pénible. Et sinon, quand le Maroc s'est fait sortir aussi, ça, j'ai un peu lâché parce que je suis supporter du Maroc.
Chauvin. Et,
voilà. Non, c'est pas Chauvin, je suis français, bien sûr, mais c'est mes origines. Donc,
Chauvin quand même.
Ah, non, mais bon, si je joue contre la France, je serai pour la France. Si ma famille m'entend, là, il me frappe, mais si je joue contre la France, je serai pour la France. Mais...
Moi, je vous dis de suite, si la France ou Corse, je suis pour la Corse.
Ouais, j'ai compris. Ouais.
Est-ce que tu as regardé, toi, Pascal, la CAN?
Pascal.
On a perdu Pascal. C'est pas grave. On va passer à Guillaume. Guillaume, est-ce que... Eh oui, la liaison avec la Corse, c'est une liaison dangereuse. Ah. Guillaume, est-ce que t'as regardé la CAN, toi?
Ouais, j'ai regardé la CAN un petit peu. J'ai pas tout suivi, bien évidemment, mais on va dire j'ai un petit peu suivi quelques matchs de poule, de phase d'élimination directe et la finale, bien évidemment. Moi, surtout, ce que j'ai bien aimé dans cette CAN, c'est que déjà, les joueurs que l'on voit se développer en Europe et qu'on connaît dans les différents clubs européens ont été présents, ont été vraiment performants dans cette compétition. Et ce que j'aime aussi, c'est que certes, il y a le côté tactique qu'on peut retrouver par rapport à toutes ces carrières en Europe. Mais en même temps, il y a un côté imprévisible dans les équipes, je trouve, qui n'hésite pas à aller de l'avant, à lâcher un petit peu les chevaux. Et ça, je trouve c'est intéressant dans des compétitions maintenant, et surtout dans des matchs de foot où c'est tellement aseptisé, ça donne un petit peu en émotion, on va dire.
Ce qui est intéressant, c'est de voir Unai avec une qualité de fou et avec nous.
Ah, c'est l'ombre de lui-même avec nous.
Ben voilà, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. C'est dommage.
Mais on va revenir à l'OM, puisque avant de se quitter, ce jeudi, on reçoit le Shakhtar Donetsk à 18h45 en Ligue Europa.
Oui.
J'aimerais avoir un petit peu votre ressenti sur le match et votre pronostic, Amar.
Écoute, moi, j'ai envie d'y croire. Tu me connais. Donc écoute, je vois l'OM. J'ai l'impression que l'OM s'est préparé pour ce match parce que vu qu'il a fait des changements un peu bizarres, il s'est dit, je vais les mettre comme quand il a sorti Harit. Je me suis posé des questions, mais je me suis dit peut-être qu'il veut soigner le match en Coupe d'Europe, donc il veut le garder pour ça. J'ai envie de voir l'OM gagner et je vais dire que l'OM va gagner sur ce match-là.
Combien ?
2-0 pour l'OM.
Guillaume.
De toute façon, si l'OM se prépare pas pour ce match, je me demande pourquoi il se prépare surtout. Mais ouais, je vois peut-être une victoire de l'OM. Pareil, une courte tête avec de la difficulté, mais on va essayer de trouver un nouvel élan sur l'Europe.
Idriss.
J'ai envie de dire qu'ils sont obligés de gagner. Parce que si on gagne pas, c'est la crise qui se lance. Et surtout contre le Shakhtar qui, je crois, ils ont même pas repris encore le championnat. Je crois que ça fait depuis avant Noël, ils ont pas joué. Et du coup, j'espère qu'ils sont préparés au moins pour ce match.
J'entends grogner Pascal. Je crois qu'il est revenu.
Ah.
Et voilà, Pascal est revenu. Pascal, le Shakhtar Donetsk, ton pronostic.
Mon pronostic.
Un partout.
De toute façon, c'est malheureux, mais j'ai envie de dire, si on veut accrocher l'Europe la saison prochaine, je pense qu'il faut sortir très vite de l'Europa League. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça, mais de toute façon, il y a tellement de gros clients derrière qu'on va pas la gagner.
Si tu la gagnes, au moins tu qualifies direct.
Ouais, non mais bon, si tu tombes sur Liverpool, c'est réglé direct.
Mais moi aussi, je vois un partout. Voilà. Donc on regardera, c'est ce jeudi à 18h45 en Ligue Europa et ce sera aussi commenté par Jean-Marc Ferreri. Messieurs, il est déjà temps de se quitter. Starfoot, ça passe vite, vous avez peut-être raté le début. On a parlé de la crise à l'OM après le nul un partout face à Metz. On m'a dit de dire Metz, pas Metz. Du carton bleu, du comportement de Klos et de l'actu foot de la semaine. Vous pouvez retrouver tout ça en podcast sur le site radiostarsud.fr. Nous, on se retrouve lundi prochain. Au revoir les garçons.
Au revoir.
Au revoir.
Et dès demain, retrouvez Bonjour le Sud dès 6h avec Laurent Artufel, Emmanuel et Fanny. Bonne soirée à l'écoute de Radio Star.